la semaine dernière dans le bureau de Par Jupiter.
Salut les feignasses. Bon, vous avez avancé sur les florilèges là?
On a déjà beaucoup de boulot.
Vous avez quand même une petite idée des invités historiques de l'émission que vous souhaiteriez entendre?
On a eu que des bons invités, je dirais.
Heureusement que j'ai bossé. Bon, alors donc, ce deuxième jour de Gold, je vous propose Morane et Poulidor.
Ah oui, Morane, je me souviens. Elle avait dit que c'est un sacré bordel notre émission.
Attends, on dit brol en Belgique en fait.
Attends, ne dites pas que Morane.
Bah, les meilleurs chanteurs français sont belges.
Ça marche pour tout.
Pour beaucoup de choses.
Non, et Poulidor, voilà quelqu'un que les Belges n'auront pas. Notre numéro 2 préféré.
Parce qu'on avait le numéro 1.
Voilà une preuve de la supériorité des Belges.
Non, mais ça va, je vous dérange pas là. Ils vont pas se faire tout seuls les best-of.
Écoute, Guillaume, le prend pas mal, mais en quelque sorte, je dirais que tu es un peu le Poulidor du rire de cette émission. Bah oui.
De toute façon, je m'en fiche, tout le monde l'adorait, Poulidor.
Ah ouais, mais là, j'avais gagné.
Ah bah ça me rappelle une certaine équipe de foot.
Oh là là, je vois pas de quoi tu parles.
Si, une équipe du Sub, celle qui a
lamentablement parce qu'on mérite.
Non, mais ça va, les garçons, c'est bon. Est-ce qu'on peut faire les best-of?
Okay.
Bon, de toute façon, cette semaine, on n'aura que des numéros 1 dans les gold.
Ah bon?
Pourquoi? Tu sais, gold en anglais, ça veut dire or.
Oh là oui.
Or, c'est
les
premiers.
D'accord. Oui.
Allez, au boulot les deux silver. Hein? Bonjour la France Inter. Vous écoutez les florilèges d'automne. Cet espace où l'actualité risque de se prendre une châtaigne. Nous sommes allés rechercher les grands crus de notre émission et même le nouveau millésime des chroniqueurs. Alors aujourd'hui, nous allons réentendre la chanteuse Morane que nous avions reçue en 2015 et aussi le champion cycliste de légende Raymond Poulidor qui avait franchi la porte du studio la même année, quelques mois plus tard. C'était il y a 6 ans. On vous promet donc une émission sans masque, sans Xavier Bertrand candidat, mais avec François Hollande. Nous en avions d'ailleurs parlé avec Morane, puisque le président de l'époque était parti préparer une conférence climat aux Philippines en compagnie de Marion Cotillard et de Mélanie Laurent.
Il est malin.
C'était pour le climat. Quant à Raymond Poulidor, nous l'avions entraîné sur le terrain glissant des conférences sociales et du syndicalisme. Et il a même joué dans un sketch avec nous. Attention à la fin de cette émission, restez là. Alex Vizorek, oui. Avec les chroniqueurs que vous avez sélectionnés, là on va regarder vers l'avenir pour affronter les rigueurs du présent.
Exactement, j'ai dû passer avec André Manoukian qui nous parle de Morane à côté d'elle. C'était sa copine de La Nouvelle Star. J'ai du Guillaume Meurice qui aussi d'époque, du 2015, la peur des drones, l'Elysée était survolée par-ci par-là à l'époque. Et puis, j'ai du plus contemporain avec Constance, qui nous parle journée mondiale du bricolage. Mm-hmm. Et une fois de plus, j'avais oublié d'y participer. Et nous terminerons, comme toute cette semaine, par un Frédéric Fromet. J'ai demandé à Roselyne, il y a peut-être un air d'Indochine qui va se perdre là-dedans.
Eh bien, nous sommes prêts à réentendre Morane. En 2015, elle venait de publier son autobiographie.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek, Par Jupiter.
Morane, je sens que vous avez déjà tout compris à l'esprit de cette émission, à son concept, c'est qu'il n'y a pas de concept.
Mais j'aime bien le bordel, moi, franchement. Les joyeux Bordeaux, les joyeux Bordeaux.
Que vous appelez un brol, parce que quand vous avez fait un mini Big Bazar, vous l'aviez appelé le mini brol. C'était le début de votre carrière.
Et un jour, j'ai même eu un t-shirt où, à la hauteur de ma poitrine, il était écrit mini brol. Et un jour, quelqu'un m'a dit, mais ça, c'est pas du mini brol.
le brol, donc c'est le bordel en belge, c'est ça?
Non, c'est le bazar.
Ah, le bazar.
Le bazar.
C'est joli. Exactement.
C'est une chose, on dirait. Passe-moi ce brol.
Et si vous voulez en savoir plus, c'est ce que Morane explique dans Trop forte, c'est votre livre paru chez Michel Lafon, qui est une autobiographie.
Oui, on peut dire ça.
Bah, on peut dire ça, carrément. Alors, à quel âge, vous le dites, moi je le sais, hein, mais à quel âge on vous a dit pour la première fois que vous aviez une très belle voix? Et qui vous l'a dit? Est-ce qu'on vous en rappelait?
Eh, écoutez, je devais pas être bien vieille parce que... Je me rappelle que c'était dans le cadre d'une fancifère. Les fancifères en Belgique, il faut expliquer, ce sont des fêtes d'école. Et j'étais déguisée en petit chaperon rouge. J'étais très jolie, comme ça. Et on m'a fait monter sur une table du haut de mes 3-4 ans. Et j'ai chanté un super tube de l'époque qui faisait « Moi, je dors avec nounours dans mes bras ». Et j'ai eu un succès fou qui était chanté par Karine et Rebecca, des deux petites Belges qui avaient elles-mêmes des parents musiciens. Et j'ai fait un tabac.
Alors, il y a un passage que j'aimerais lire parce que je pense que ça va inspirer un commentaire à André Manoukian déjà. Parce que quand je l'ai lu, je me suis dit, vous avez on sent que vous avez fréquenté André Manoukian. Je veux dire, pourquoi je lis l'extrait. Le diaphragme. Alors, vous dites, ça part du bas-ventre pour jaillir par le sommet de mon crâne. Le diaphragme et la bouche sont un tuyau. Je me tords presque imperceptiblement, comme on incline l'archet sur les cordes d'un violon. Et la note sort différente. Le plus souvent debout, les jambes un peu écartées et fléchies. Ouais. J'imprime un léger balancier de gauche à droite. Les énergies circulent. Il faut arrêter de fréquenter André Manoukian.
Non, c'est pas très glam. Je reconnais cette position.
Non, pourquoi pas ? C'est imagé, en tout cas.
Si, moi, je chante très, c'est vrai, campé sur mes jambes, les jambes un peu pliées, le bassin en avant. Mais effectivement,
et ça
pour
dit
le
quoi,
passin,
mais
ça dit quoi ?
Ça alors, dit vas-y, la André. Seule réalité du chant. En fait, quand je, vous croyez que je délire quand je vous parle
non,
de
non, non, non.
Et pourtant,
c'est
André ne chante pas.
Mais voilà, mais c'est moi, je suis amoureux de la voix, pour moi, c'est le plus bel instrument qui soit. Et c'est vrai, quand on voit Morane sur scène et qu'elle est dans cette posture là, ça semble complètement naturel vu les sons qu'elle envoie. Il y a une image qui va encore plus loin, c'est dans à la fin du cinquième élément, vous savez, quand elle se retourne comme ça, brah, puis qu'elle balance un son.
Le film de Luc Besson.
Oui, c'est ça.
Morane joue dans le cinquième élément.
Non.
oui, je voilà.
C'est pas dit dans le livre.
Pour
ça,
moi, la chanteuse, elle a un pouvoir incroyable et on manie une énergie incroyable.
Mais est-ce que tu joues du piano avec les jambes arquées, le bassin
oui,
vers
bah
l'avant?
Oui, figure-toi que oui, les jambes légèrement écartées, le pelvis légèrement en action. Sur le...
Mais à Jeanne Chéral, vous avez analysé sa position.
Exactement.
Sur le piano.
Elle, oui. Elle chevauche comme une rideuse, ouais, c'est ça.
Très bien, tout
c'est
ça.
Pas... Mais c'est ça, ça, oui. Alors, ça n'est pas moi qui invente ces métaphores sexuelles. Vous prenez n'importe quelle prof
c'est même
de
pas
chant.
Des métaphores Morane, sexuelles.
Défends-moi.
Mais Charline, elle présente non, comme ça l'émission aussi. Regardez-la.
Ouais,
regarde
souvent, quand tu parles la voix. Même si quelquefois tu dis des trucs que personne ne comprend et même pas toi, je dois dire que
merci.
Quand tu parles de la voix, tu dis des choses très réelles avec lesquelles je me sens complètement en accord.
Voilà,
c'est
et c'est aussi
vrai
que tu chantes avec ton sexe. Enfin, allons-y, on va chercher le son.
On chante
là.
Aussi avec son sexe, bien
voilà.
Sûr.
Voilà. Donc tout ça, c'est écrit. Hein,
moi, c'est du pipeau, moi, plutôt.
Est-ce qu'il y a moyen de travailler dans cette émission ?
Quoique.
Est-ce que vous n'auriez pas bu un peu de vodka avant cette émission ?
Pardon, madame.
Hein, je pense qu'il y a des mauvaises influences qui se perdent. Avec vous, on va aborder le premier sujet.
Ah, on change le monde ici.
Moi, je reprends.
Ah bon
le, je, oui, je vais.
Changeons le monde.
Je vais reprendre les choses en main. Parce que si on compte sur Vizorek, on n'est pas arrivé. Premier sujet, François Hollande est parti préparer la conférence climat de Paris.
Il est gentil.
Aux Philippines. Et il n'est pas seul.
De cheval.
Il,
pardon,
excusez-moi. Il a emmené Mélanie Laurent et Marion Cotillard. Et nous avons demandé à.
Les plus moches.
Oui, il est bien entouré. Nous avons demandé à Marion Cotillard comment elle a été choisie.
J'étais très tentée. En même temps, j'avais une réticence parce que je me demandais pourquoi il me le demandait à moi, comédienne. J'avais peur qu'il me demande de faire un commentaire joué quelque part, interprété, disons. Alors que moi, j'aime une narration très, très simple. Et justement, sans pousser l'émotion qu'il y a déjà à l'écran.
Oui, la narration très simple, c'est quand même caractéristique de Marion Cotillard. Alors cela dit, on va être tout à fait honnête, nous avons détourné un commentaire, parce qu'elle a prêté sa voix pour des documentaires animaliers, notamment sur l'ours blanc. Donc ça montre sa conviction sur le sujet du climat.
Mais il n'y a pas de Manoukian qui dit des trucs qu'on ne comprend pas. Hein,
vous voyez. Alors on se demandait, donc il a emmené deux actrices, sachant qu'il partage la vie notamment d'une actrice.
Ah bon
et, ah ben oui, si. C'est
ça
qui est rigolo dans
pas
le sujet.
Officiel,
ouais, mais bon. C'est pour une noble cause, le climat. Alors, est-ce qu'on peut faire une distinction ? Il y a par exemple Sophie Marceau, quand elle part en Chine, c'est pour vendre des automobiles, notamment pour, je crois que c'était Renault, Citroën ou Peugeot. Enfin,
c'est un autre climat, en fait.
C'est un autre climat pour l'économie française. Et Marion Cotillard et Mélanie Laurent accompagnent le chef de l'État pour le climat. Vous pourriez être ambassadrice, accompagner François Hollande ? C'est quelque chose qu'on accepte facilement ?
J'ai des trucs mieux à faire, mais bon... Voilà, si ça leur plaît, c'est enfin François, j'ai beaucoup de choses à dire.
En tant que personnalité publique, connue dans le monde entier, on lui demande ça, on ne sait pas si c'est bien pour son image.
Déjà, je trouve que c'est pas mal qu'il se penche sur l'écologie, parce que pour moi, c'est une des premières choses à régler, parce que vous pouvez mener tous les combats politiques que vous voulez, si la planète pète les plombs, à un moment donné, il n'y a plus rien qui se passe. Voilà, donc ça. Ça, c'est pas mal en
soi. C'est vraiment un enjeu.
Maintenant, pourquoi Marion Cotillard et
Mélanie Laurent, qui sont un peu des têtes de turc des humoristes et qui sont un peu considérées comme têtes à claque,
bon.
si, parce qu'il y a eu une vidéo sur Mélanie Laurent où on a dit qu'elle avait le melon, il y a Marion Cotillard, etc.
J'ai vu ça,
Et ce sont les deux ambassadrices rêvées à l'international pour un sommet climat qui a un enjeu colossal. C'est fou ce qu'on traite.
Elles sont très jolies, mais alors du coup, c'est très contradictoire avec le but du jeu de François Hollande, parce que elles vont faire, au contraire, monter le niveau des océans. C'est pas le but du jeu.
Elle ne veut pas surjouer parce que ça ferait pléonasme. Hein. Le sujet.
Elle ne veut pas jouer du tout. En fait.
Le sujet est grave si j'ajoute dramatique. Les Français, on a une certaine pudeur par rapport aux Américains.
Alors André, par contre,
il veut la pécho, André. Enfin voilà, ça me paraît évident.
Là où vous allez être beaucoup plus convaincant, je suis certaine, c'est quand vous allez parler de notre invité.
Ah. Et la voisine.
En fait, j'ai un scoop. Parce que Morane n'est pas une chanteuse. C'est un instrument. Un instrument brésilien qui a été conçu par accouplement de deux continents, le continent africain et le continent sud-américain. Cette copulation fut joyeuse, même si l'on sent des brumes de nostalgie au détour des ornementations vocales de Morane. Morane n'est pas une chanteuse, c'est une musicienne. Vous connaissez la différence ? C'est Duke Ellington qui a tout son big band. 5 minutes avant de rentrer sur scène, il convoque les trombones. Il dit, les gars, l'introduction, on la joue un ton plus haut. Le pianiste, arrivé à la mesure 34, tu vas faire un solo pendant 8 secondes. Le batteur, toi, tu vas prendre 4 mesures d'intro, etc. Et la chanteuse arrive à la fin, il dit, et moi. Et Duke Ellington lui répond, toi, tu fais rien, ma chérie, comme d'habitude. Morane n'est pas une chanteuse. C'est une comédienne. Les histoires qu'elle raconte tireraient des larmes, même à des gens qui ne comprennent pas sa langue, le belge. Tant le sous-texte musical est chargé d'émotions. Elle fait partie de la confrérie orphique de celles qui font pleurer les pierres avec leur voix. Morane n'est pas une chanteuse, c'est une voix, un son nouveau, inimité jusqu'à ce jour. Ni dans le continent francophone, ni dans le continent lusitophone. Car il y a du fado dans sa voix.
On dit pas lusophone?
Ah si, on dit lusophone. Le lusitophone, c'est un instrument. Vous avez raison. Car il y a du...
Non, on dit pas le xylophone?
On dit la marimba. Du fado dans la voix de Morane. Le fado, c'est ce chant de marins qui chantaient la tristesse de quitter leur femme à Lisbonne et leur maîtresse dans tous les autres ports du monde. Morane n'est pas une chanteuse, c'est une direction. Elle donne le nord à tous les chanteurs blancs qui, comme Nino Ferrer, voudraient être noirs. Et elle réussit parce qu'elle est une des rares chanteuses à faire résonner la soul cachée de la langue de Molière. En cela, c'est la digne, voire seule héritière de Nougaro. Morane n'est pas une chanteuse, c'est une langue ourlée qui rebondit sur des airs moelleux et roucoulants que la Belgitude partage avec Toulouse. Morane n'est pas une chanteuse, c'est une variation de Bach, un envol sur un sujet clair exposé de façon calme. Morane n'est pas une chanteuse, c'est un batteur. Elle a un timing, une mise en place rythmique irréprochable. La pulse chevillée à la moindre consonne et quant aux voyelles, elle les fait vibrer en synchro sur le tempo et ne parlons pas de l'afterbeat qu'elle évoque par un simple mouvement d'épaule. Je vous ai déjà expliqué ce que c'était l'afterbeat, Charline, j'y reviendrai une autre fois.
Gage Paty l'a déjà expliqué dans une chanson.
Ah ben
rien
voilà.
À voir justement. C'est vrai ? C'est vrai ?
Morane n'est pas une chanteuse, c'est un contre-chant avec lequel elle accompagne les solos de ses musiciens sur scène. Morane n'est pas une chanteuse, c'est un ambitus. L'écart entre sa note la plus grave et sa note la plus haute équivaut à peu près à l'écart du PIB entre la Sierra Leone et le Qatar. Morane n'est pas une chanteuse, c'est un vent, un zéphyr qui souffle sur ses cordes vocales et lui donne ce timbre incroyable de chanteuse brésilienne qui serait belge comme l'amour. Morane n'est pas une chanteuse, c'est une incantation, une prière. Elle ne chante pas, elle incante. En résumé, pour être chanteuse, il faut être instrument, musicien, comédien, avoir une voix, un tempérament, une direction, une langue, une variation. Il faut être batteur, il faut être un contre-chant, un ambitus, un zéphyr, une incantation. Le pire, c'est que même avec tout ça, c'est pas sûr que vous soyez chanteuse parce que vous n'êtes pas Morane, tout simplement.
Ressuscite tête un jour ou l'autre on ne veut.
Ce titre de Morane, sous ses yeux-là, nous chantait-elle et nous l'avions reçu en 2015 et on prend plaisir à réécouter cette émission avec la chanteuse belge. Allez, tout de suite, sujet 2, une digital détox pour éviter le burn-out numérique. C'est un mal moderne et en français dans le texte. Et un journaliste en a fait un documentaire.
Et maintenant, je vous dis tout. La ferme. Il s'en est passé des choses en 65 ans, il s'en est passé. Tout marche à l'électricité, même les guitares à l'électricité, tout ça. Ça va, vous? Ça va bien? Alors, qu'est-ce que vous pensez?
Ça doit dépenser beaucoup de pétrole.
Mais c'est fini le pétrole, maintenant c'est le kérosène. En attendant le carburant atomique, il va venir, le carburant atomique, l'atome, les neutrons. Et maintenant on va sur la Lune. On va sur la Lune avec un insecte.
Avec un insecte?
Allez, un insecte module. Un insecte module. Les hommes deviennent fous.
Les ravages de la déconnexion. Quand on se déconnecte, c'est, on redécouvre la vie. Extrait d'Hibernatus, bien sûr. Il y avait donc un documentaire intitulé Digital Detox de Pierre-Olivier Labbé sur le sevrage numérique. Justement, vous êtes très technologie numérique.
Très addict.
Alors, est-ce que c'est la même logique un peu que le régime, c'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer de se sevrer par tous les moyens?
Il faut. Vous savez que des fois, quand on est obligé, je suis partie à Cuba il y a 2 ans. À Cuba, c'est impossible de se connecter. Je suis partie 10 jours, 15 jours, je sais plus. Et donc, je ne pouvais pas me connecter. Ça fait un bien, en fait. J'étais ravie.
Et vous avez ressenti un manque au début?
Il faut aller dans une dictature pour se déconnecter.
Oui, exactement. Non, mais au début, j'ai râlé 2 minutes, mais après, c'était la messe, quoi. C'était,
moi, je vais en Corée du Nord tous les ans, c'est génial. Déconnecté.
Guillaume Meurice. Alors, il y a un psy dans ce documentaire qui était donc diffusé hier soir. Vous pouvez sans doute rattraper sur le VOD de Canal+. Hein. Le psy dit se déconnecter, c'est mourir un peu. Le monde tourne sans vous. C'est ce que vous ressentez aussi?
Non, pas du tout. Non. Franchement, quand je lève le pied, ça me manque pas du tout. C'est comme le champagne. J'adore le champagne. J'adore boire des coups, mais quand je peux pas.
Et ça,
le
à
faire,
Cuba, c'était dur aussi, j'imagine.
Le champagne, non, ça, il faut pas.
Mais après combien de verres de champagne vous déconseillez de tweeter?
C'est-à-dire qu'après quelques verres de champagne, je conseille de tweeter.
Oui. Quand on relit le lendemain.
Je tweete beaucoup. Ça
c'est Morano,
au début.
C'est pas Morane. Morano.
Oh là là. Bon, ne me comparez pas, je vous en supplie.
Est-ce que vous imaginiez, Morane, que je vous donne un rôle dans un sketch pour terminer cette émission? Est-ce que vous l'acceptez?
C'est-à-dire, je sais pas.
Ayez confiance.
Attention, c'est un beau sketch. Un beau sketch. Puisque
je dis ce qui est en vert.
Vous êtes en vert.
André, vous avez un rôle aussi.
André, vous êtes Bachar el-Assad. Morane, vous êtes sa femme. Et Guillaume et moi sommes 2 des 4 parlementaires français qui sont partis le rencontrer, alors que tout le monde trouve que c'est une mauvaise idée. Les 4 ont été là-bas, 2 UMP, 1 PS, 1 UDI. Évidemment, j'avais laissé traîner des micros.
Bonjour les Français, comment ça va?
Bonjour monsieur.
Appelez-moi Bachar et je vous présente ma femme.
Bonjour, je suis la femme de Moustache.
Arrête, c'est gênant. Alors qu'est-ce qui vous amène?
On voulait voir comment ça se passait ici, quoi.
Tout va très 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 bien. Vous restez pour dîner, j'ai préparé des tagines.
Oui, ici tout va très bien. Je vous cache pas que...
Mais non mon chouchou, tout va bien, on n'est pas au Nigeria ici.
Donc tout va bien, parce que quand on regarde TF1, parfois on pourrait croire...
Mais non, tout le monde aime Bachar ici. D'accord. Il a gagné les dernières élections.
Ah oui, c'était serré.
Ah bon? Vous avez fait combien de pourcents?
97% seulement, mais mon opposant a quand même fait 3%.
C'était un type bien à feu, son opposant.
Ah, parce qu'il est arrivé quelque chose à l'opposant?
Que c'est triste. On l'avait invité à manger.
Puis... je ne sais pas ce que j'avais mis dans le tagine, mais on l'a...
Quand même, ouais, d'accord.
Que c'est triste.
Bon, on va pas rester debout, on va passer à table.
Non, ça va pas être possible en fait.
Pourquoi?
Non, on venait juste pour voir si tout allait bien, et ça a l'air d'aller, donc on va continuer la tournée.
Vous allez où?
Ouais, là on va à Cuba, voir Castro, puis comme c'est sur le chemin, on s'arrête à Pyongyang pour saluer Kim Jong.
Ah, très bien, vous allez les saluer de ma part.
Sans faute. Dites, c'est quoi ce bruit là dehors? C'est rien,
c'est une tradition locale.
D'accord.
Bon, vous êtes certain pour les tagines?
Oui, certain.
Alex, vous êtes allé fouiller dans les archives des moments Meurice. À quel millésime là?
2015, madame. Ouais, c'était une bonne année. Moi, il n'y en a pas vraiment de plus mauvaise que d'autres. Nous avions peur des drones à l'époque.
Eh bien, écoutez, on croyait tout avoir vu en matière d'angoisse, les menaces djihadistes, la guerre imminente en Ukraine, le dernier discours de Marion Cotillard. Mais depuis quelques jours, on a clairement passé un cap en matière de psychose. Écoutez l'ouverture du journal de TF1 hier soir.
Paris à nouveau survolé par des drones la nuit dernière. Vous verrez que les systèmes de protection, les avions de chasse, les radars sont impuissants face à ces objets volants non identifiés.
Vous avez entendu ça? Hein, tout y est, le ton, la musique, quelle angoisse. J'étais tellement flippé après le reportage, j'ai croisé un moustique et j'ai fait une descente d'organes direct. Alors je ne suis pas le seul, hein, toute la France a peur des drones, ils sont partout. Il y en a même un qui a volé au-dessus du palais de l'Élysée, ce qui constitue un bouleversement total, car d'habitude, celui qui vole, c'est celui qui habite dans le palais de l'Élysée. Alors, qui se cache derrière tout ça? Des fabricants de drones, bien évidemment. Je les ai contactés. Écoutons Francis Duruflé, vice-président de la Fédération française du drone civil.
On est exposé et on est présenté comme des objets inquiétants.
Alors ça peut être une bonne pub pour vous, par exemple, si des gens d'Al-Qaïda Yémen qui regardent les informations françaises, peut-être ils vont vous commander un drone.
Oui, effectivement. Terroriste pourra l'utiliser. Maintenant, les sommes mises en jeu sont tellement importantes que il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé pour le 11 septembre. Ils n'ont pas fait l'acquisition des drones. Hein.
S'il y a un terroriste qui vient vous demander conseil, vous lui conseilleriez peut-être plus un détournement d'avion?
Je leur conseille rien du tout. Hein.
Ah bah oui, mais si, il faut conseiller les terroristes, c'est important. Il faut alimenter la peur, c'est très très important pour les audiences. Il manque de vice, ce vice-président. Il a même tenté de me rassurer.
Ces produits-là sont effectivement peut-être pas si dangereux que ce qu'on s'imagine. Donc,
mais si vous êtes dangereux, c'est TF1 qui l'a dit. Si TF1 a dit que vous étiez dangereux, c'est que vous êtes dangereux.
Bien sûr. Mais je crois que TF1 avait peut-être dit aussi que les constructeurs de voitures étaient dangereux.
Ah non, ça ils peuvent pas parce qu'il y a des annonceurs en fait.
Ouais, voilà.
Bah oui, voilà. Achetez des espaces de pub sur TF1 et vous verrez que les drones ne seront plus considérés comme des dangers. C'est quand même pas compliqué. Bon, oublions Francis, il est trop timoré. J'ai contacté la société Factorit et son directeur Alexandre Belay. Il n'est pas concepteur de drones, mais...
Je suis pilote professionnel et donc je fais toutes les vidéos pour n'importe qui.
Vous êtes pilote de drone?
Tout à fait.
En quoi ça consiste, ça, pilote de drone? Ça veut dire que vous êtes très petit et que vous vous asseyez à l'intérieur du drone?
C'est à peu près ça, ouais.
Oui, mais non, évidemment. Hein. Si c'était le cas, Mimi Mathy aura une chance de rejouer dans Top Gun. Mais non. Non. Alexandre, Alexandre, il est pilote du sol pour les besoins de ses clients. D'ailleurs, quelles sont les demandes?
On m'a souvent demandé si je pouvais aller filmer les voisines en train de bronzer sur leur terrasse, mais généralement, on n'a pas trop le droit.
Excellente idée. Pourquoi on n'a pas le droit?
Eh bien, parce que la législation vous interdit non seulement de survoler, déjà toute la région parisienne est interdite de survol, et en campagne, en fait, on n'a tout simplement pas le droit parce que, on a une éthique, en fait, qu'on est obligé de respecter.
Donc, alors, attendez, on n'a pas le droit de survoler Paris parce que c'est interdit, et on n'a pas le droit de survoler la campagne parce que vous avez une éthique, donc vous survolez quoi?
On n'a pas le droit de survoler en campagne sans autorisation, en tout cas, de cette personne qui est en train de bronzer.
Ah oui, mais alors là, c'est carrément nul. Si en plus, on ne peut même pas filmer des gonzesses à poil, ça m'étonne pas que TF1 n'y voit aucun autre intérêt que celui de susciter la peur. Alors, l'entreprise Amazon y voit un autre intérêt, les utiliser pour des livraisons, ce qui créerait certainement de nouvelles vocations, par exemple chasseurs de drones. Imaginez des types qui tirent dessus et qui récupèrent le contenu, hein, avec le suspense qui va avec. Oh, génial, un CD de Patrick Sébastien. Ou alors, oh merde, la biographie de Morane. Non mais, ou inversement, hein, chacun ses goûts. Chacun ses goûts, bien sûr. Hein. Qu'en pense le fondateur de la marque de drones 6VO, des chasseurs de drones, hein, pas de la biographie de Morane.
Des chasseurs de drones, il faut être un bon tireur, hein. Je veux vous dire, pour tirer sur un drone.
On pourrait imaginer des gens qui inventent des filets à drones pour récupérer toutes les commandes du site Amazon, par exemple.
Après, on pourra attraper ces gens avec les mêmes filets avec lesquels ils ont essayé d'attraper les drones Amazon.
Ah, il faudrait des filets à chasseurs de drones.
C'est une très bonne remarque.
Oui, alors là, ça permettrait d'alimenter encore plus la psychose, mais on peut trouver pire que les drones, moins cher et plus discret, les avions en papier. J'ai contacté le porte-parole du mouvement français des plieurs de papier. Ça existe, hein, c'est véridique. Il m'a parlé d'un virtuose de l'avion en papier.
Il a travaillé notamment sur le pliage d'avions en papier les plus légers possibles pour qu'il vole quasiment tout seul.
Ah mais alors attendez, il y a un risque pour la sécurité nationale là, s'il y a des avions en papier qui survolent l'Elysée par exemple?
Ben, on espère bien, oui, pouvoir un peu influencer le cours du monde à partir d'une petite feuille de papier toute bête.
Ah ben ça fait peur ça quand même, hein?
Ben, on peut, c'est le début de, c'est le début de tout, hein, la feuille de papier. Donc ça peut conduire à tout n'importe quoi.
Et oui, prochaine enquête de TF1, le papier, cette arme qu'on utilise pour faire des livres et ainsi combattre la télévision et les marchands de peur. Cette arme vicieuse qui peut servir aussi bien à rédiger un traité de paix qu'un discours, de Marion Cotillard.
Merci Guillaume Meurice.
I would give my life for this. If the bullet was the beat, I would probably die for this. How many times did I cry for this? I would hate myself if I didn't at least try for this. What's at stake is bigger than me. Blood, tears, how it stains, can't rid it with ease. What we have in common is our pain. We're given the keys to unlock what it takes to fight for what we believe in. Hard to confront the truth with what you see in the mirror. Some people you inspire and others you trigger. Fighting in blind faith led by the internal voice. You might not wanna do it, but you don't have a choice. Will the pressure take me to new heights or be my demise? Will my intentions coincide with what I advise? The people looking up to me doing everything right. But who am I to tell anyone how to live their life? Your pain, fresh hope will determine if you survive. I'm amazed by it. Lying to myself, pretending I was never fazed by it. Maybe cause you're in my DNA, that's why. Sometimes, always, but right now, you made the promise to God to be there for your kids. You made a promise to give them a life you didn't live. My ego won't fully allow me to say that I miss you. A woman who hasn't confronted all her daddy issues. The day will come when you gotta find all the answers to your sins. Pressures are provided, feeling unhappy within. Or what kind of external family shit up on your plate. But I understand wanting and needing an escape. Too much unsaid, now the silence giving me headaches. Only through speech can we let go of all this dead weight. Even though I'm angry, don't wanna be disrespectful. Trying to figure out how to approach this in the best way. Hard to not carry these feelings even on my best days. Never thought my parents would give me my first heartbreak. Anxiety giving me irregular heart rate. Used to avoid getting into how I really feel about this. Now I see how fickle life can be and so it can't wait. Should have been the person there to hold me on my dark days. It's easier to stargaze. I wish then be faced with this reality. Is you a sperm donor or a dad to me and still? On this mission you live and learn. The world don't show you no mercy from birth. How do you humanize your hero? Grounded, you're only respected if earned. Half-hearted stories can't let your guard down. To get to Nirvana, where do you start out? Angry cause they don't meet your unrealistic standards. Then you realize that they're human and you calm down. Sometimes I'm unbalanced and I think raw, why am I losing my steps? Lately I'm paranoid, I feel my life is a mess. I'm just using my voice, hope it will have an effect. He was just once a boy, often I seem to forget. Looking at Polaroids, a picture secretly kept. You know what was destroyed, but you don't know what was left. Trying to phase out the noise of all you hear in your head. Everything is a choice and anything can be said. Is you missing the point? Are you just hearing me vent? Or is you in understanding, knowing my words will connect? I keep you in my prayers, cause life is short as we know. Every mistake you make should contribute to your growth. What you choose to avoid will probably come in your dreams. I'm not forgiven for you, man, I'm forgiven for me. And sometimes, 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 always.
I'm
Little Sims sur France Inter qui chantait I love you, I hate you. Vous êtes à l'écoute des florilèges d'automne. On va continuer à voyager dans le temps et à musarder dans les archives de l'émission pour retrouver la voix de Raymond Poulidor, le coureur cycliste légendaire. Alors lui aussi publiait à l'époque son autobiographie. C'était il y a 6 ans. Écoutez comme nous étions jeunes, mais toujours moins que lui.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanhoenacker.
Voilà des manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter?
Raymond Poulidor, l'écrivain alors aujourd'hui, qu'est-ce que... C'est pour un livre que vous venez aujourd'hui, Raymond Poulidor, champion, paru au Cherche Midi. Alex Vizorek s'est plongé dedans, mais corps et âme.
Mais oui, alors déjà, vous avez parlé de Chubby Checker, tout ça. On se plonge dans une autre époque, évidemment, et c'est passionnant pour tout qui aime le vélo, mais pour tout qui aime cette époque-là, cette passion, cette ferveur envers le sport. Alors, je voudrais juste commencer par cette première phrase, parce que vous êtes encore modeste. Vous dites, je suis content parce que j'ai approché des stars de tous les horizons, de tous les milieux, des écrivains, des comédiens, des chanteurs, des géants du sport, de la politique. J'ai fait du vélo avec Dalida, j'ai joué au poker avec le mari d'Annie Cordy. En fait, vous êtes plus content d'être entré dans ce monde, alors que c'est vous la légende, Raymond Poulidor.
Oui, bien sûr. Là, vous parlez de poker. Là, je jouais au poker pendant que je... quand je faisais le Tour de France avec la télévision. Alors, on jouait tous les soirs, on jouait au poker. Je me souviens, j'ai des souvenirs énormes, puisque Annie Cordy faisait le spectacle. Elle faisait le spectacle à Europe numéro 1.
Ah, on ne connaît pas,
c'est une petite radio.
Et on jouait au poker avec Bruno, son mari, et Annie Cordy venait nous rejoindre vers minuit, 1h du matin. Elle n'allait pas au lit avant avec sans son Bruno. C'est-à-dire, elle dormait sur la chaise jusqu'à 4-5 heures du matin. J'ai des souvenirs.
C'est ça qui est rigolo, parce que vous en parlez comme si vous êtes content vous-même d'avoir appartenu à cette époque, alors que c'est vous qui l'avez faite.
Bah, quand même, il connaît Annie Cordy.
Oui, c'est ça qui est dingue. Le binôme, évidemment, dont on est obligé de parler, mais je voudrais vous faire raconter une anecdote qui est à la fin du livre. C'est vous et Anquetil, mais... quand il vient dans votre chambre, alors que lui a arrêté le vélo, il est encore sur le tour, mais il vient vous voir, vous continuez à courir, il vient vous demander quelque chose pour sa fille.
Il m'a demandé plusieurs choses. Les deux, il avait arrêté le vélo en 69. Moi, j'ai continué ma carrière, j'ai arrêté en 77. Et en 74, il est venu de ma chambre, il m'a dit, tu sais, je suis un de tes plus fervents supporters et j'aimerais que tu gagnes ce Tour de France en 74. J'ai dit, tiens, c'est drôle quand même. Alors j'ai réfléchi un peu, puisqu'il m'arrive quand même de réfléchir. J'ai réfléchi un peu, j'ai dit, tiens, mais pourquoi il me dit ça? Merckx avait déjà gagné 4 Tours de France. Et il était en train de gagner son 5e tour.
Et oui.
Et Anquetil, c'était le seul qui avait gagné 5 Tours de France.
Non, mais surtout, quand il vous demande...
Oui, j'en reviens là. Oui. Je m'excuse d'avoir employé ces propos. Il vient dans la chambre, il me dit, tu continues à m'emmerder. Excusez-moi.
Vous
tu continues à m'emmerder, tu te rends compte, ma fille, elle veut une casquette de poupou. Et quand tu parles qu'elle était sur la route, elle encourageait comme tous les gamins. Et tous les gamins de 2 ans, ils criaient, vas-y poupou, vas-y poupou. Il dit, tu te rends compte, ma fille a dit poupou avant papa.
Vous êtes bien sur France Inter. Oui, avec Raymond Poulidor, qui publie un livre au Cherche Midi, oui. Champion. On va avoir l'occasion d'en parler, on a trouvé un lien avec le premier sujet d'actualité, Raymond Poulidor. En ce jour de grande conférence sociale, où les partenaires doivent tenter de renouer le dialogue qui s'est délité, alors que les syndicats qu'on appelle les corps intermédiaires, où les grands corps intermédiaires malades sont tous présents, sauf la CGT.
La contestation est née du capital. Elle est engendrée par le capital. Le capital est donc plus important que la contestation, car la contestation ne vit pas de ce qu'elle conteste, alors que le capital vit de sa contestation. Je vais vous rassurer tout de suite, les autres ne comprennent pas non plus.
Voilà. Le capital et la contestation sont donc réunis aujourd'hui en conférence, autour notamment de François Hollande et de 3 ministres. Alors, tout le monde a un patron dans la vie. Vous, Raymond Poulidor, même les sportifs, vous avez eu des patrons. Qui ont été vos patrons, finalement?
J'ai eu des patrons pendant 18 ans. Ouais, 18 ans, j'étais... Mercier, qui était une grande industrie de cycles, qui était basée à Saint-Étienne, puisque vous savez que Saint-Étienne, c'était la base du cycle, mm-hmm. le cycle, l'armement.
C'est ça que vous n'avez eu que le maillot vert, alors,
la machine, machine à coudre.
Machine à coudre. Moi, j'ai un lien vraiment avec les syndicats, parce que vous êtes un des premiers à avoir subi un contrôle antidopage. Et vous vous dites, bon, bah, c'est assez normal, on va l'accepter. Sauf que le reste du peloton est très fâché. Et se met en grève, c'est Anctil d'ailleurs qui trouve que c'est scandaleux de venir vous chercher si tôt, de vous réveiller, de vous piquer. Là, il y a eu vraiment un mouvement syndical des coureurs sur le tour.
Mais il n'était pas impliqué, Anctil.
Bien sûr,
c'est moi le seul qui ai eu le contrôle.
D'accord, mais il était fâché, il y a eu rébellion de tous les coureurs.
C'est-à-dire, oui, on a le peloton a manifesté au départ de lendemain de l'épreuve de l'étape.
On est en quelle année là un peu ?
On est en 66. Mm-hmm. 66. Puisque c'est l'année d'après, c'est le drame qui s'est produit dans le moment tout avec Tom Simpson. Mm-hmm. On est en 66 et le lendemain, les coureurs, on a fait grève de 10 minutes.
Petite grève.
On peut dire que globalement, le dialogue social était apaisé chez vous. C'est pas comme en ce moment. Alex, revenons un peu au présent, à l'instantanéité des choses et à cette merveilleuse année 2021.
Mais oui, car en 2015, nous ne connaissions pas encore Constance la chroniqueuse.
C'est vrai.
Nous connaissions Constance, l'artiste de scène. Eh bien, on l'a bien adoptée et on va écouter l'une de ses meilleures, la Journée mondiale du bricolage.
Salut les amis bien montés et bonjour les amateurs de vis. Non, pour votre gouverne, vous êtes dans l'erreur si vous pensez que le début de cette chronique est pavé d'allusions cochonnes, car en vérité, nous courons actuellement tous ensemble nus au milieu d'un champ, le champ lexical de la rénovation. Car hier, lundi 24 mai, c'était la journée mondiale du bricolage. Ah, le bricolage, cette activité plaisir du dimanche, vouée entièrement à la détente et à l'harmonie du couple. Allez. Aujourd'hui, je vais remettre un petit coup de blanc sur les murs du salon. Depuis le temps que tu me le demandes, ma petite chérie, comme ça, je te fais plaisir. Et moi, ça me détend. Je me vide la tête, je bricole. Pom, 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 pom. Et qui sait qui sera contente de remercier ce soir son bel ouvrier ? Non, c'est pas un tournevis dans ma poche. Allez, on va pas traîner, on va commencer à s'y mettre. Comme ça, ce soir, petite soirée en amoureux dans le salon, tout neuf avec ma petite chérie d'amour. Ah, bah, tu le croyais ? Il y avait du papier peint en dessous, là. Avec des motifs affreux. Voilà, on dirait des chats ou des fleurs, je sais pas, c'est moche, moche, moche. Allez, je vais le virer, comme ça on repart sur des murs tout neufs et ils ont pas mis de sous-couche. Sérieusement, ils ont pas mis de sous-couche. Tu m'écoutes ou quoi ? Je te dis, ils ont pas mis de sous-couche. Ils ont collé directement le papier peint sur le B13. Qui fait ça ? Putain. C'est des blaireaux. Non, je suis pas énervée, je bricole, ça me détend. Je parle tout haut, c'est tout. Wow, 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 prends pas tout pour toi non plus, chouchou. Hein. Oh là là, t'es pas le centre du monde, hein. Allez, ramène-moi le décapeur thermique et une bière. Ça va être un petit peu plus long que prévu. C'est pas grave, c'est sympa de faire des trucs tous les deux, non ? C'est le ciment du couple, hein ? Le ciment du couple, en pleine rénovation. T'aimes pas l'humour, en fait, voilà. Bon. Non, je t'ai demandé le décapeur thermique. Ça, c'est la visseuse. T'es conne ou quoi ? Quoi, je te parle mal ? Oh putain, tu vas pas commencer à me prendre la tête. Je te parle comme on parle à quelqu'un qui a de la merde dans les yeux au point de confondre un décapeur thermique avec une visseuse. Non, ça c'est un rabot. Bah garde-le, comme ça au passage tu pourras raboter ton gros cul. Oh mais je déconne, oh là là, t'aimes pas l'humour en fait, hein. Et ça y est, tu chiales. Et j'ai dit quoi de blessant ? Mais c'est pas croyable de tout prendre mal comme ça. On dirait ta mère, quelle conne. Aïe, putain ! Ah ! Ah, tu t'es fait mal qu'elle me demande. T'en as d'autres des questions à la cour comme ça ? Bah non, je me suis fait du bien, je viens de me coincer les couilles dans l'escabeau et j'ai bien aimé. Ah ! Mais tiens le droit, ce putain de niveau, là, on va pas s'en sortir. Arrête de chialer, ça fait bouger les bulles. Mais non, tu vas pas tomber, regarde, bah mets-toi derrière moi, comme ça tu seras mieux là. Quoi, je pue ? Bah oui, je pue, je bricole, tu veux pas que je mette une veste à paillettes non plus ? Sincèrement, on s'en fout qu'on voit l'arrêt de mon cul quand je me baisse, y'a personne ici. Mais non, j'ai pas dit que t'étais personne, mais... Putain, mais toi c'est pas pareil, tu fais partie des meubles, quoi. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Tu fais la gueule. Mais non, j'ai pas dit que t'étais un meuble, je veux dire, t'es comme le chien, quoi. Tu m'as vu à poil, alors on s'en cogne. Mais non, je viens pas de te comparer au chien ! Mais je suis pas agressif quand je bricole, non ! C'est dimanche ! Je me casse le cul à essayer de te faire un beau salon !
pour te faire plaisir, pour qu'on passe un bon moment ensemble. Et toi, putain, j'ai fait un trou dans le mur avec le décapeur thermique. Fais-moi l'enduit. Pourquoi il sèche pas ce putain d'enduit? Écarte-toi, je vais péter le mur. Je m'en fous qu'il soit porteur. Comment ça, porteur de quoi? Mais pas de maladie, espèce de colasse. Recule. Eh ben sinon, eh ben voilà, t'es coincé dans le béton de la terrasse. Bah tu sais quoi? Eh ben aussi vrai que je m'appelle Xavier Dupont de Ligonnès, eh ben je vais te laisser dans la terrasse. Et c'est ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, espèce de connasse. Et puis je vais y foutre les gosses avec toi. Et tout ça, ça sera de la faute à la grosse d'Amido et à cette émission de bricolage à la con.
Voilà, donc le bricolage, si ça vous tend, faites appel à des artisans. Bisous.
Constance, votre maison dans l'Oise, vous avez fait des travaux récemment?
Tout refait.
Ouais, voilà, c'est ça. Ça sent le vécu aussi. Merci beaucoup, Constance, et bravo. Quittons cette riante année 2021 et revenons 6 ans en arrière pour réécouter avec plaisir cette émission avec Raymond Poulidor. On avait abordé un sujet d'actualité avec lui, bien sûr, sur lequel vous allez pouvoir prendre beaucoup de recul 6 ans après en le réécoutant, et surtout un sketch.
Ah,
mémorable.
Le sketch, vous me l'avez vendu en début d'émission, évidemment. Il a un intérêt exceptionnel.
Et après le sujet, vous pourrez l'écouter, il est là, écoutez. Et on va aborder le deuxième sujet de cette émission avec vous. Une enquête relayée par Libération démontre comment, en très peu de temps et sans qu'on s'en émeuve, l'argent est devenu une pièce majeure du système éducatif. Le symbole en est l'EDEC, l'école de commerce. Facture pour 3 ans d'études, 45 000 euros. Il fait donc bon aussi y enseigner.
Est-ce que vous tenez beaucoup à rester dans l'enseignement?
Rester dans l'enseignement, mon Dieu. Oui, madame.
Eh bien, la situation que monsieur va peut-être vous proposer vous permettrait de gagner davantage.
Pas beaucoup plus, mais un peu plus. Oui, un peu plus. Je pourrais vous donner un fixe, plus une prime sur toutes les affaires. Vous feriez en moyenne 40 000 francs.
Par mois?
Oui.
Pour moi?
Oui.
Pour des leçons de quoi?
Ah, des leçons de commerce, sans doute. Raymond Poulidor, je sens que vous cherchiez d'où vient l'extrait. C'est Fernandel dans Topaz, évidemment, de Marcel Pagnol. Topaz. Alors, donc, je vous résume rapidement. Dans Libération, il y a une double page, une interview d'un certain Arnaud Parianti qui publie un livre qui s'appelle School Business aux éditions La Découverte et qui explique, voilà, que, bah, qu'en très peu d'années et sans que personne s'en émeuve, l'argent domine le système éducatif et notamment ces écoles de commerce qui coûtent très très cher et plus il y a de débouchés dans un secteur, plus les écoles font monter les prix. Alex Vizorek, vous êtes plongé dans le livre de notre invité, Raymond Poulidor.
Alex Vizorek, vous qui avez fait une école de commerce.
Mais oui, oui, aussi, c'est vrai.
Et c'est aussi qu'en Belgique, bon, c'est au sein de l'université, c'est-à-dire que c'est au sein de la fac, donc vous pouvez payer le même prix pour faire prof de gym que pour faire école de commerce.
Beaucoup plus démocratique. Et Raymond Poulidor, vous, vos parents n'avaient pas les moyens de vous faire faire des grandes études, comme on dit.
Oui, enfin, des grandes études. Moi, j'ai quitté l'école à 14 ans.
Mais vous étiez bon élève.
J'étais bon élève, ça me plaisait. Et le lendemain de mon certificat d'études, je suis revenu à l'école pour continuer. Mon instituteur m'a fait comprendre, eh non, c'est fini maintenant l'école. Puisqu'en ce moment-là, fallait payer les études et tout. Et puis mes parents n'avaient pas les moyens. Et après, bon, ça a été une tare pour moi. Puisque après, moi j'ai pris le train. La première fois que j'ai pris le train, j'avais 20 ans. J'étais jamais sorti de la maison. Et je remercie beaucoup le vélo, ma réussite dans le vélo. Ça a été une réussite au point de vue intellectuel et tout, un enrichissement terrible avant l'enrichissement question argent. Mm-hmm. Puisqu'en ce moment, on gagnait bien la vie, mais ça n'avait rien à voir avec les sportifs de l'époque de maintenant.
Raymond Poulidor, on a une proposition à vous faire.
Tous les jours, on propose un sketch à notre invité. Donc je vous donne un rôle qui consiste à être avec Guillaume Meurice, syndicaliste. Rassurez-vous, il n'y a pas de drame. Je vous sens inquiet, mais soyez pas inquiet, tous les invités s'en sont sortis.
Ouh là là,
vous êtes en jaune. Et donc nous sommes au dialogue social, et le problème c'est évidemment la traduction. Charline va traduire ce qui se passe entre les syndicalistes Guigui et Poupou et François Hollande que je vais faire moi-même.
Alors, que les choses soient claires, Poupou et moi, on n'est pas d'accord avec vous, hein Poupou?
Exact, Kiki.
On m'appelle Guigui, mais vous pouvez m'appeler Kiki. On n'est pas d'accord. On est d'accord juste pour dire culé de politicard.
Alors, le représentant syndical tient à vous signifier son mécontentement. Oui. Il pense que vous pourriez avoir recours à une forme de sexualité anale.
Ouais. Oui, je répondrai essentiellement à la première partie de la réflexion. Je comprends votre mécontentement et je vais, en concertation avec le gouvernement, agir en conséquence.
Attends, qu'est-ce qu'il dit ?
Alors, ce que veut dire précisément, monsieur le président, voilà. C'est-à-dire qu'il s'en bat les steaks de vos préoccupations. Hein,
ouais.
Il aime l'entreprise.
Oui, ouais, ben moi, merci pour l'honnêteté. Ben, vous pouvez lui dire que la prochaine fois, c'est pas que je vais pas lui serrer la main, la prochaine fois, c'est ma main dans sa gueule. Un poupou.
Ah oui, Kiki.
Guigui, mais c'est
si
pas grave.
Si tu vas le premier, j'y vais en deuxième.
Ouais, toujours deuxième, poupou. Bon, traduisez-lui.
Voilà, monsieur le président, oui. C'est sauvage, vous menace de représailles dans le cas où vous n'agiriez pas en leur faveur. Voilà.
Mais je comprends, et sachez que dans la mesure de nos possibilités, nous ferons notre possible pour défendre le prolétariat.
Bon, alors là, il dit que franchement, ce serait un sacré coup de bol qu'il reste de l'argent pour trouver une solution.
Mais c'est bien ce que je pensais. On va tout mettre à sac. On va retourner toute la France. On va faire entendre la voix des travailleurs. Voilà. On va faire une deuxième révolution. N'est-ce pas, poupou?
Deuxième, c'est une bonne place.
On va la préparer. Tu vas voir, le peuple vaincra.
Qu'est-ce qu'il dit?
Rien, il a dit qu'il allait retourner à la permanence syndicale, voilà. Boire un petit coup de rouge et se calmer, voilà. Parce que demain, ils ont un congrès pour décider de l'organigramme de leur syndicat.
Parfait, moi j'aime le dialogue syndical.
Et voici celui qui annonce tout doucement la fin de l'émission, mais profitons-en encore quelques minutes.
Et oui, vous vous souvenez qu'on a fait un concert test avec Indochine pour savoir si les salles de spectacle étaient des clusters. Il s'avère qu'elle ne l'était pas, mais que quand même, on garde les masques toujours. Voilà, petit message personnel. Et Fromet en avait fait une chanson. Bonjour Roselyne Bachelot.
Eh bien, catastrophe sur le front de l'épidémie de Covid. Demain se tient le concert test d'Indochine.
Oh non.
J'ai demandé à Roselyne la reprise des concerts. Je pensais pas à Indochine. Je veux pas choper un cancer des deux oreilles. Et concernant le Covid, quitte à créer un cluster et à promouvoir le suicide, il ne manque plus que Mylène Farmer. J'ai demandé à Roselyne le retour de la culture. Je pensais pas à Indochine. Je suis pas fan de leur coiffure, ni de leur fringue, ni de leur névrose. Je ne bois pas de jus de cafard. Je préfère encore une thrombose à cette boum dans un hangar. Dans l'accord hôtel Arena, on dirait un service de réa. 5000 cobayes contre le corona, surveillés par des caméras. Le pire, c'est les 2500 volontaires au concert dans leur habitation. C'est sûrement ça, une idée de l'enfer, avoir Indochine dans son salon. Indochine dans le living room, c'est encore pire qu'un apéro Zoom. Indochine depuis le canapé, c'est pire qu'un test nasopharyngé. Indochine à la maison, ça mérite un avis d'expulsion. Même un soir, le week-end, c'est déjà beaucoup trop. J'ai déjà une migraine. Même un soir, le week-end, bonjour les acouphènes. J'ai demandé à Roselyne la reprise des concerts. Je pensais pas à Indochine. Vite, vite, un geste barrière, à moins que la PHP nous vaccine contre les paroles prépubères. C'est le public qu'on assassine. Je m'y connais en la matière. Je demande à Roselyne qu'il n'y ait plus jamais de concert.
C'est la fin de ce deuxième florilège d'automne, Alex.
Est-ce que vous avez aussi bien pour demain, Charline?
Mais oui, plein de beaux souvenirs nous attendent. Voilà, une autre émission à réécouter avec deux autres moments millésimés, je dirais. Car nous réécouterons l'émission avec Virginie Efira et celle avec Jean-Pierre Mocky.
Ouais, on va se faire engueuler.
Oh, quel contraste. Je vous dis à demain.